Chapitre 4 du prétendu complexe de dépendance du colonisé. Il n'y a pas dans le monde un pauvre type lynché, un pauvre homme torturé, en qui je ne sois assassiné et humilié. Aimé Césaire, dans « Et les chiens se taisaient ». Lorsque nous avons commencé ce travail, nous ne possédions que quelques études de M. Manoni parues dans la revue Psyché. Nous nous proposions d'écrire à l'auteur pour le prier de nous communiquer les conclusions auxquelles il était parvenu. Depuis, nous avons su qu'un ouvrage allait paraître qui réunirait ses réflexions. Cet ouvrage est paru, Psychologie de la colonisation. Nous allons l'étudier. Avant d'entrer dans le détail, disons que la pensée analytique est honnête. Ayant vécu à l'extrême l'ambivalence inhérente à la situation coloniale, M. Manoni est parvenu à une saisie malheureuse, trop exhaustive, des phénomènes psychologiques qui régissent les rapports indigènes colonisateurs. La caractéristique fondamentale de la recherche psychologique actuelle semble consister dans la réalisation d'une certaine exhaustivité. Mais on ne doit pas perdre de vue le réel. Nous montrerons que M. Manoni, bien qu'ayant consacré 225 pages à l'étude de la situation coloniale, n'en a pas saisi les véritables coordonnées. Quand on aborde un problème aussi important que l'inventaire des possibilités de compréhension de deux peuples différents, on doit redoubler d'attention. Nous sommes redevables à M. Manoni d'avoir introduit dans la procédure deux éléments dont l'importance ne saurait plus échapper à personne. Une analyse rapide avait semblé écarter la subjectivité de ce domaine. L'étude de M. Manoni est une recherche sincère car elle se propose de montrer qu'on ne saurait expliquer l'homme en dehors de cette possibilité qu'il a d'assumer ou de nier une situation donnée. Le problème de la colonisation comporte ainsi non seulement l'intersection des conditions objectives et historiques, mais aussi l'attitude de l'homme à l'égard de ces conditions. Pareillement, nous ne pouvons qu'adhérer à cette partie du travail de M. Manoni qui tend à pathologiser le conflit, c'est-à-dire à démontrer que le blanc colonisateur n'est que mu par son désir de mettre fin à une insatisfaction sur le plan de la surcompensation adlérienne. Toutefois, nous nous découvrons en opposition avec lui quand nous lisons cette phrase. Le fait qu'un malgache adulte isolé dans un autre milieu peut devenir sensible à l'infériorité de type classique prouve de façon à peu près irréfutable que, depuis son enfance, il existait en lui un germe d'infériorité. À la lecture de ce passage, nous sentons chavirer quelque chose et l'objectivité de l'auteur risque de nous induire en erreur. Avec ferveur, cependant, nous avons essayé de retrouver la ligne d'orientation, le thème fondamental du livre. L'idée centrale est que la mise en présence des civilisés et des primitifs crée une situation particulière, la situation coloniale, faisant apparaître un ensemble d'illusions et de malentendus que seule l'analyse psychologique peut situer et définir. Or, puisque tel est le point de départ de M. Manoni, pourquoi veut-il faire du complexe d'infériorité quelque chose de préexistant à la colonisation? Nous reconnaissons là le mécanisme d'explication qui, en psychiatrie, donnerait « il y a des formes latentes de la psychose qui deviennent manifestes à la suite d'un traumatisme » et en chirurgie, l'apparition de varices chez un individu ne provient pas de l'obligation pour lui de rester 10 heures debout, mais bien d'une fragilité constitutionnelle de la paroi veineuse, le mode de travail qui n'est qu'une condition favorisante et le surexpert requis décrète très limité la responsabilité de l'employeur. Avant d'aborder dans le détail les conclusions de M. Manoni, nous voudrions préciser notre position. Une fois pour toutes, nous posons ce principe. Une société est raciste ou ne l'est pas. Tant qu'on n'aura pas saisi cette évidence, on laissera de côté un grand nombre de problèmes. Dire par exemple que le nord de la France est plus raciste que le sud, que le racisme est l'œuvre des subalternes, donc n'engage nullement l'élite, que la France est le pays le moins raciste du monde, est le fait d'hommes incapables de réfléchir correctement. Pour nous prouver que le racisme ne reproduit pas la situation économique, l'auteur nous rappelle qu'en Afrique du Sud, les ouvriers blancs se montrent autant et parfois plus racistes que les dirigeants et les employeurs. Nous nous excusons, mais nous voudrions que ceux qui se chargent de décrire la colonisation se rappellent une chose, c'est qu'il est utopique de rechercher en quoi un comportement inhumain se différencie d'un autre comportement inhumain. Nous ne voulons nullement enfler le monde de nos problèmes, mais nous voudrions bonnement demander à M. Manoni s'il ne pense pas que pour un juif, les différences entre l'antisémitisme de Maurras et celui de Goebbels sont impalpables. À la fin d'une représentation de la putain respectueuse en Afrique du Nord, un général disait à Sartre « Il est bon que votre pièce fût jouée en Afrique noire. Elle montre bien à quel point le noir en pays français est plus heureux que son congénère américain. » Je crois sincèrement qu'une expérience subjective peut être comprise par autrui, et il ne me plaît nullement de venir en disant « le problème noir est mon problème, moi seul », puis de me mettre à l'étudier. Mais il me semble que M. Mannoni n'a pas essayé de ressentir par le dedans le désespoir de l'homme de couleur en face du blanc. Je me suis attaché, dans cette étude, à toucher la misère du noir. Tacitement et affectivement, je n'ai pas voulu être objectif. D'ailleurs, c'est faux. Il ne m'a pas été possible d'être objectif. En vérité, y a-t-il donc une différence entre un racisme et un autre? Ne retrouve-t-on pas la même chute, la même faillite de l'homme? M. Mannoni estime que le pauvre blanc d'Afrique du Sud déleste le noir, indépendamment de tout processus économique. Outre qu'on peut comprendre cette attitude en évoquant la mentalité antisémite, aussi nommerais-je volontiers l'antisémitisme un snobisme du pauvre. Il semble en effet que la plupart des riches utilisent cette passion plutôt qu'ils ne s'y abandonnent. Ils ont mieux à faire. Elle se propage à l'ordinaire dans les classes moyennes, précisément parce qu'elle ne possède ni terre, ni château, ni maison. En traitant le juif comme un être inférieur et pernicieux, j'affirme du même coup que je suis d'une élite. Nous pourrions rétorquer que ce déplacement de l'agressivité du prolétariat blanc sur le prolétariat noir est fondamentalement une conséquence de la structure économique de l'Afrique du Sud. Qu'est-ce que l'Afrique du Sud? Une chaudière où 2 530 000 blancs matraquent et parquent 13 millions de noirs. Si les pauvres blancs haïssent les nègres, ce n'est pas, comme le laisserait entendre M. Mannoni, parce que le racisme est l'œuvre de petits commerçants et de petits colons qui ont beaucoup trimé sans grand succès. Non, c'est parce que la structure de l'Afrique du Sud est une structure raciste. Négrophilie et philanthropie sont des injures en Afrique du Sud. On propose de séparer les indigènes des Européens, territorialement, économiquement et sur le terrain politique, et de leur permettre d'édifier leur propre civilisation sous la direction et l'autorité des Blancs, mais avec un minimum de contact entre les races. On propose de réserver aux indigènes des territoires et d'obliger le plus grand nombre à y habiter. La compétition économique serait supprimée et un chemin préparé pour la réhabilitation des pauvres blancs qui forment 50% de la population européenne. Il n'est pas exagéré de dire que la plupart des Sud-Africains éprouvent une répugnance presque physique vis-à-vis de tout ce qui met un indigène ou une personne de couleur à leur niveau. Pour en finir avec l'argument de M. Mannoni, rappelons que la barrière économique vient entre autres causes de la crainte de la concurrence et du désir de protéger les classes des blancs pauvres qui forment la moitié de la population européenne et de les empêcher de tomber plus bas. M. Mannoni continue, l'exploitation coloniale ne se confond pas avec les autres formes d'exploitation. Le racisme colonial diffère des autres racismes. L'auteur parle de phénoménologie, de psychanalyse, d'unité humaine, mais nous voudrions que ces termes revêtent chez lui un caractère plus concret. Toutes les formes d'exploitation se ressemblent. Elles vont toutes chercher leur nécessité dans quelques décrets d'ordre biblique. Toutes les formes d'exploitation sont identiques, car elles s'appliquent toutes à un même objet, l'homme. À vouloir considérer sur le plan de l'abstraction la structure de telle exploitation ou de telle autre, on se masque le problème capital, fondamental, qui est de remettre l'homme à sa place. Le racisme colonial ne diffère pas des autres racismes. L'antisémitisme me touche en pleine chair. Je m'émeus, une contestation effroyable m'anémie, on me refuse la possibilité d'être un homme. Je ne puis me désolidariser du sort réservé à mon frère. Chacun de mes actes engage l'homme. Chacune de mes réticences, chacune de mes lâchetés manifeste l'homme. Note. En écrivant ceci, nous pensons à la culpabilité métaphysique de Jasper. Il existe entre les hommes, du fait qu'ils sont des hommes, une solidarité en vertu de laquelle chacun se trouve co-responsable de toute injustice et de tout mal commis dans le monde, et en particulier des crimes commis en son présence, ou sans qu'il les ignore. Si je ne fais pas ce que je veux pour les empêcher, je suis complice. Si je n'ai pas risqué ma vie pour empêcher l'assassinat d'autres hommes, si je me suis tenu quoi, je me sens coupable en un sens qui ne peut être compris de façon adéquate ni juridiquement, ni politiquement, ni moralement. Que je vive encore après que de telles choses se soient passées pèse sur moi comme une culpabilité inexplicable. Fin de la note. Il nous semble encore entendre Césaire. Quand je tourne le bouton de ma radio, que j'entends qu'en Amérique des nègres sont lynchés, je dis qu'on nous a menti, Hitler n'est pas mort. Quand je tourne le bouton de ma radio, que j'apprends que des juifs sont insultés, méprisés, pogromisés, je dis qu'on nous a menti, Hitler n'est pas mort. Que je tourne enfin le bouton de ma radio et que j'apprenne qu'en Afrique le travail forcé est institué, légalisé, Je dis que véritablement, on nous a menti, Hitler n'est pas mort. Oui, la civilisation européenne et ses représentants les plus qualifiés sont responsables du racisme colonial. Note, la civilisation européenne et ses représentants les plus qualifiés ne sont pas responsables du racisme colonial, mais celui-ci est l'œuvre de subalternes et de petits commerçants, de colons qui ont beaucoup trimé sans grand succès. Manoni, page 16. Fin de la note. Et nous faisons encore appel à Césaire. Et alors, un beau jour, la bourgeoisie est réveillée par un formidable choc en retour. Les gestapos s'affairent, les prisons s'emplissent, les tortionnaires inventent, raffinent, discutent autour des chevalets. On s'étonne, on s'indigne, on dit « Comme c'est curieux !» Mais bah, c'est le nazisme, ça passera. Et on attend, et on espère, et on se tait à soi-même, la vérité, que c'est une barbarie, mais la barbarie suprême, celle qui couronne, celle qui résume la quotidienneté des barbaries, c'est que c'est du nazisme, oui, mais qu'avant d'en être la victime, on en a été le complice, que ce nazisme-là, on l'a supporté avant de le subir, on l'a absous, on a fermé l'œil là-dessus, on l'a légitimé, parce que, jusque-là, il ne s'était appliqué qu'à des peuples non européens, que ce nazisme-là, on l'a cultivé, on en est responsable, et qu'il sourd, qu'il perce, qu'il goûte, avant de l'engloutir dans ses eaux rougies, de toutes les fissures de la civilisation occidentale et chrétienne. Chaque fois que nous voyons des Arabes, l'allure traquée, méfiant, fuyant, drapés de ces longues vestes déchirées qui semblent être fabriquées à leur intention, nous nous disons « Monsieur Manoni s'est trompé », souvent de fois, nous nous sommes fait arrêter en plein jour par les inspecteurs de police qui nous prenaient pour un arabe. Et quand ils découvraient notre origine, ils s'empressaient de s'excuser. Nous savons bien qu'un Martiniquais est différent d'un arabe. Véhémentement, nous protestions, mais, nous disait-on, vous ne les connaissez pas. En vérité, monsieur Manoni, vous vous êtes trompé, car, que signifie cette expression ? La civilisation européenne et ses représentants les plus qualifiés ne sont pas responsables du racisme colonial. Que signifie-t-elle sinon que le colonialisme est l'œuvre d'aventuriers et de politiciens, les représentants les plus qualifiés se tenant en effet au-dessus de la mêlée? Mais, dit Francis Janson, tout ressortissant d'une nation est responsable des agissements perpétrés au nom de cette nation. Jour après jour, ce système développe autour de vous ses conséquences pernicieuses. Jour après jour, ses promoteurs vous trahissent, poursuivent au nom de la France une politique aussi étrangère que possible, non seulement à vos véritables intérêts, mais aussi à vos exigences les plus profondes. Vous vous faites gloire de vous maintenir à distance d'un certain ordre de réalité. Ainsi, laissez-vous les mains libres à ceux que les atmosphères malsaines ne sauraient point rébuter, puisqu'ils les créent eux-mêmes par leur propre comportement. Et si vous parvenez, apparemment, à ne pas vous salir, c'est que d'autres se salissent à votre place. Vous avez des hommes de main, et tout compte fait, c'est vous les vrais coupables, car sans vous, sans votre négligente cécité, de tels hommes ne pourraient poursuivre une action qui vous condamne autant qu'elle les déshonore. Nous disions tout à l'heure que l'Afrique du Sud avait une structure raciste. Nous allons plus loin et nous disons que l'Europe a une structure raciste. On voit bien que M. Manoni n'est pas intéressé à ce problème, puisqu'il dit « La France est le pays le moins raciste du monde. Beau nègre, réjouissez-vous d'être français. » Même si c'est un peu dur, car en Amérique, vos congénères sont plus malheureux que vous. La France est un pays raciste, car le mythe du nègre mauvais fait partie de l'inconscient de la collectivité. Nous le montrerons plus loin, au chapitre 6. Continuons avec M. Manoni. Un complexe d'infériorité lié à la couleur de la peau ne s'observe en effet que chez les individus qui vivent en minorité dans un milieu d'une autre couleur, dans une collectivité assez homogène comme la collectivité malgache, où les structures sociales sont encore assez solides, on ne rencontre de complexes d'infériorité que dans des cas exceptionnels. Encore une fois, nous demandons à l'auteur quelques circonspections. Un blanc aux colonies ne s'est jamais senti inférieur en quoi que ce soit, comme le dit si bien M. Manoni. Il sera fait dieu ou dévoré. Le colonisateur, bien qu'en minorité, ne se sent pas infériorisé. Il y a en Martinique 200 blancs, qui s'estime supérieur à 300 000 éléments de couleur. En Afrique australe, il y a 2 millions de blancs pour près de 13 millions d'indigènes, et il n'est venu à l'idée d'aucun indigène de se sentir supérieur à un minoritaire blanc. Si les découvertes d'Adler et celles non moins intéressantes de Kunkel expliquent certains comportements névrotiques, il ne faut pas en inférer des lois qui s'appliqueraient à des problèmes infiniment complexes. L'infériorisation est le corrélatif indigène de la supériorisation européenne, ayant le courage de le dire, c'est le raciste qui crée l'intériorisé. Par cette conclusion, nous rejoignons Sartre, le juif est un homme que les autres hommes tiennent pour juif. Voilà la vérité simple d'où il faut partir, c'est l'antisémite qui fait le juif. Que deviennent les cas exceptionnels dont nous parle M. Mannoni? Ce sont tout simplement ceux où l'évolué se découvre soudain rejeté par une civilisation qu'il a cependant assimilée, en sorte que la conclusion serait la suivante. Dans la mesure où le véritable malgache type de l'auteur assume ses conduites dépendantes, tout est pour le mieux. Toutefois, s'il oublie sa place, s'il se met en tête d'égaler l'Européen, alors le dit Européen se fâche et rejette l'impudent qui, à cette occasion et dans ce cas exceptionnel, paye d'un complexe d'infériorité son refus de la dépendance. Nous décelions précédemment, dans certaines allégations de M. Mannoni, un quiproquo pour le moins dangereux. En effet, il laisse au malgache le choix entre l'infériorité et la dépendance. Hormis ces deux solutions, point de salut, quand il, le malgache, réussit à établir de telles relations dans la vie avec des supérieurs, son infériorité ne le gêne plus, tout va bien. Quand il ne réussit pas, quand sa position d'insécurité ne se régularise pas de cette manière, il éprouve un échec. Le premier souci de M. Mannoni avait été de critiquer les méthodes jusqu'ici employées par les différents ethnographes qui se sont penchés sur les populations primitives. On voit le reproche qu'il nous faut adresser à son ouvrage. Après avoir enfermé le malgache dans ses coutumes, après avoir réalisé une analyse unilatérale de sa vision du monde, après avoir décrit le malgache en cercle fermé, après avoir dit que le malgache entretient des relations de dépendance avec les ancêtres, caractéristique hautement tribale, l'auteur, au mépris de toute objectivité, applique ses conclusions à une compréhension bilatérale, ignorant volontairement que, depuis Gallieni, le malgache n'existe plus. Ce que nous demandions à M. Mannoni, c'était de nous expliquer la situation coloniale. Il oublie singulièrement de le faire. Rien ne se perd, rien ne se crée, nous sommes d'accord. Parodiant Hegel, Georges Balandier, dans une étude qu'il a consacrée à Cardinaire et Linton, écrit à propos de la dynamique de la personnalité, le dernier de ces états est le résultat de tous les états antécédents et doit en contenir tous les principes, mais qui demeure la règle de nombreux chercheurs. Les réactions, les comportements qui sont nés de l'arrivée européenne à Madagascar ne sont pas venus s'additionner aux préexistants. Il n'y a pas eu d'augmentation du bloc psychique antérieur. Si par exemple, des Martiens se mettaient en quête de coloniser les terriens, non pas de les initier à la culture martienne, mais littéralement de les coloniser, nous douterions de la pérennité d'une quelconque personnalité. Gardiner redresse beaucoup de jugements en écrivant « Enseigner le christianisme aux gens d'alors, c'est une entreprise à la Don Quichotte, ça n'a aucun sens tant que la personnalité reste construite avec des éléments qui sont en complète désharmonie avec la doctrine chrétienne. C'est assurément commencé par le mauvais bout, et si les nègres sont imperméables à l'enseignement du Christ, ce n'est point parce qu'ils sont incapables de l'assimiler. Comprendre quelque chose de nouveau nous demande de nous disposer à, de nous préparer à, exige une nouvelle mise en forme. Il est utopique d'attendre du nègre ou de l'arabe qu'ils accomplissent l'effort d'insérer des valeurs abstraites dans leur Weltanschauung, alors qu'ils mangent à peine à leur faim. Demander à un nègre du Haut-Niger de se chausser, dire de lui qu'il est incapable de devenir un Schubert n'est pas moins absurde que de s'étonner qu'un ouvrier de chez Berlier ne consacre pas ses soirées à l'étude du lyrisme dans la littérature hindoue ou de déclarer qu'il ne sera jamais un Einstein. En effet, dans l'absolu, rien ne s'oppose à de pareilles choses, rien, sauf que les intéressés n'en ont pas la possibilité. Mais ils ne se peignent pas. La preuve, au bout du petit matin, au-delà de mon père, de ma mère, la case gerçant d'ampoule, comme un péché tourmenté de la cloque et le toit aminci, rapiécé de morceaux de bidons de pétrole, et ça fait des marées de rouillure dans la pâte grise sordide, empuantie de la paille, et quand le vent siffle, ces disparates font bizarre le bruit, comme un crépitement de friture d'abord, puis comme un tison que l'on plonge dans l'eau avec une fumée de brindilles qui s'envole. Et le lit de planches, D'où s'est levée ma race tout entière, ma race de ce lit de planches, avec ses pattes de caisse, de kérosine, comme s'il l'avait, l'éléphantiasis, le lit, et sa peau de cabri, et ses feuilles de bananes séchées, et ses haillons, une nostalgie de matelas, le lit de ma grand-mère, au-dessus du lit dans un pot plein d'huile, un lumigon dont la flamme danse comme un gros navet, sur le pot, en lettres d'or, merci. Malheureusement, cette attitude, ce comportement, cette vie trébuchée, prise au lasso de la honte et du désastre, s'insurge, se conteste, conteste, aboie, et comme ma foi, on lui demande, qui pouvez-vous? Commencez. Commencez quoi? La seule chose au monde qui vaille, la peine de commencer, la fin du monde parbleu. Ce que Manoni a oublié, c'est que le malgache n'existe plus. Il a oublié que le malgache existe avec l'européen. Le blanc arrivant à Madagascar a bouleversé les horizons et les mécanismes psychologiques. Tout le monde l'a dit, l'altérité pour le noir, ce n'est pas le noir, mais le blanc. Une île comme Madagascar, envahie du jour au lendemain par les pionniers de la civilisation, même si ces pionniers se comportèrent du mieux qu'ils purent, connut une déstructuration. C'est d'ailleurs M. Manoni qui le dit. Au début de la colonisation, chaque tribu voulait avoir son blanc. Que l'on explique cela par des mécanismes magico-totémiques, par un besoin de contact avec le dieu terrible, par l'illustration d'un système de dépendance, il n'en demeure pas moins que du nouveau s'était produit dans cette île et qu'on en devait tenir compte sous peine de rendre l'analyse fausse, absurde, caduque. Un apport nouveau étant intervenu, il fallait tenter la compréhension des nouveaux rapports. Le blanc débarquant à Madagascar provoquait une blessure absolue. Les conséquences de cette irruption européenne à Madagascar ne sont pas seulement psychologiques, puisque, tout le monde l'a dit, il y a des rapports internes entre la conscience et le contexte social. Les conséquences économiques, mais c'est le procès de la colonisation qu'il faudrait faire. Poursuivons notre étude. En termes abstraits, le malgache peut supporter de ne pas être un homme blanc. Ce qui est cruel, c'est d'avoir découvert d'abord qu'on est un homme, par l'identification, et ensuite que cette unité se rompt en blanc et noir. Si le malgache, abandonné ou trahi, maintient son identification, elle devient alors revendicatrice et il exigera des égalités dont il n'est prouvé nullement le besoin. Ces inégalités lui auraient été avantageuses avant qu'il ne les réclamât, mais ensuite elles sont un remède insuffisant à ces maux, car tout progrès dans les égalités possibles rendra encore plus insupportables les différences qui, tout à coup, apparaissent comme douloureusement ineffaçables. C'est de cette manière qu'il passe, le malgache, de la dépendance à l'infériorité psychologique. Ici encore, nous retrouvons le même malentendu. Il est en effet évident que le malgache peut parfaitement supporter de ne pas être un blanc. Un malgache est un malgache, ou plutôt non, un malgache n'est pas un malgache. Il existe absolument sa malgacherie. S'il est malgache, c'est parce que le blanc arrive, et si, à un moment donné de son histoire, il a été amené à se poser la question de savoir s'il était un homme ou pas, c'est parce qu'on lui contestait cette réalité d'homme. Autrement dit, je commence à souffrir de ne pas être un blanc dans la mesure où l'homme blanc m'impose une discrimination, fait de moi un colonisé, m'extorque toute valeur, toute originalité, me dit que je parasite le monde, qu'il faut que je me mette le plus rapidement possible au pas du monde blanc, que je suis une bête brute, que mon peuple et moi sommes comme un fumier ambulant, hideusement promoteur de canne tendre et de coton soyeux, que je n'ai rien à faire au monde, alors j'essaierai tout simplement de me faire blanc, c'est-à-dire j'obligerai le blanc à reconnaître mon humanité, mais, nous dira M. Manoni, vous ne pouvez pas, car il existe au profond de vous un complexe de dépendance. Tous les peuples ne sont pas aptes à être colonisés, seuls le sont ceux qui possèdent ce besoin. Et plus loin, presque partout où les Européens ont fondé des colonies du type qui est actuellement en question, on peut dire qu'ils étaient attendus et même désirés dans l'inconscient de leurs sujets. Des légendes partout les préfiguraient sous la forme d'étrangers venus de la mer et destinés à apporter des bienfaits. Comme on le voit, le blanc obéit à un complexe d'autorité, à un complexe de chef, cependant que le malgache obéit à un complexe de dépendance. Tout le monde est satisfait. Quand il s'agit de comprendre pourquoi l'Européen, l'étranger, fut appelé Vazaha, c'est-à-dire honorable étranger, quand il s'agit de comprendre pourquoi les Européens naufragés furent accueillis À bras ouverts, pourquoi l'Européen, l'étranger, n'est jamais conçu comme un ennemi, au lieu de le faire en partant de l'humanité, de la bienveillance, de la politesse, très fondamentaux de ce que Césaire appelle les vieilles civilisations courtoises? On nous dit que c'est tout simplement parce qu'il y avait, inscrit dans les hiéroglyphes fatidiques, l'inconscient en particulier, quelque chose qui, du blanc, faisait le maître attendu. L'inconscient où nous y voilà, mais il ne faut pas extrapoler. Quand un nègre me raconte le rêve suivant, je marche depuis longtemps, je suis très fatigué, j'ai l'impression que quelque chose m'attend. Je franchis des barrières et des murs, j'arrive dans une salle vide, et derrière une porte, j'entends du bruit. J'hésite avant d'entrer. Enfin, je me décide, j'entre. Il y a dans cette deuxième chambre des blancs. Je constate que moi aussi, je suis blanc. Et quand j'essaie de comprendre ce rêve, de l'analyser, sachant que cet ami a des difficultés d'avancement, je conclus que ce rêve réalise un désir inconscient. Mais quand il s'agira pour moi, en dehors de mon laboratoire de psychanalyste, d'intégrer mes conclusions au contexte du monde, je dirai, premièrement, mon patient souffre d'un complexe d'infériorité, sa structure psychique risque de se dissoudre, il s'agit de l'en préserver et, peu à peu, de le libérer de ce désir inconscient. Deuxièmement, il se trouve à ce point submergé par le désir d'être blanc, c'est qu'il vit dans une société qui rend possible son complexe d'infériorité, dans une société qui tire sa consistance du maintien de ce complexe, dans une société qui affirme la supériorité d'une race. C'est dans l'exacte mesure où cette société lui fait des difficultés qu'il se trouve placé dans une situation névrotique. Ce qui apparaît alors, c'est la nécessité d'une action couplée sur l'individu et sur le groupe. En tant que psychanalyste, je dois aider mon client à conscientiser son inconscient, à ne plus tenter une rectification hallucinatoire, mais bien à agir dans le sens d'un changement des structures sociales. Autrement dit, le noir ne doit plus se trouver placé devant ce dilemme, se blanchir ou disparaître. Mais il doit pouvoir prendre conscience d'une possibilité d'exister. Autrement dit encore, si la société lui fait des difficultés à cause de sa couleur, si je constate dans ses rêves l'expression d'un désir inconscient de changer de couleur, mon but ne sera pas de l'en dissuader en lui conseillant de garder ses distances. Mon but au contraire sera, une fois les mobiles éclairés, de le mettre en mesure de choisir l'action ou la passivité à l'égard de la véritable source conflictuelle, c'est-à-dire à l'égard des structures sociales. Monsieur Manoni, soucieux d'envisager le problème sous tous les angles, n'a pas manqué d'interroger l'inconscient du malgache. Il analyse pour cela sept rêves, sept récits qui nous livrent l'inconscient, et parmi lesquels on en trouve six qui manifestent une dominante de terreur. Des enfants et un adulte nous communiquent leurs songes, et nous les voyons tremblants, fuyants, malheureux. Rêve du cuisinier, je suis poursuivi par un taureau noir furieux, plein de terreur. Je monte dans un arbre où je reste jusqu'à ce que le danger soit passé. Je redescends tout tremblant. Rêve de Raevi, garçon de 13 ans. En me promenant dans le bois, je rencontre deux hommes noirs. Ah, dis-je, je suis perdu. Je vais, entre parenthèses, veux m'enfuir, mais c'est impossible. Ils m'encerclent et bredouillent à leur façon. Je crois qu'ils disent, tu vas voir ce que c'est que la mort. Je tremble de peur et leur dis, laissez-moi, messieurs, j'ai tellement peur. Un de ces hommes connaît le français, mais malgré tout, ils me disent, viens notre chef. En s'acheminant, ils me font marcher devant eux et me font voir leurs fusils. Ma peur redouble, mais avant d'arriver à leur camp, on doit traverser un cours d'eau. Je plonge au fond de l'eau. Grâce à mon sang-froid, je gagne une grotte de pierre et me cache dedans. Lorsque les deux hommes s'en vont, je m'enfuis et retrouve la maison de mes parents. Rêve de Josette. Le sujet, une jeune fille, s'est perdue et s'assied sur un tronc d'arbre couché. Une femme, vêtue d'une robe blanche, lui apprend qu'elle est au milieu des brigands. Le récit continue ainsi. Je suis écolière, répondis-je en tremblant, et lorsque je revenais de l'école, je me suis perdue ici. Elle me dit, suis ce chemin et vous arriverez chez vous. Rêve de Razafi. Garçon de 13 à 14 ans. Il est poursuivi par des tirailleurs, sénégalais, qui, en courant, font un bruit de cheval au galop. Ils montrent leurs fusils devant eux. Le sujet échappe en devenant invisible. Il monte un escalier et trouve la porte de la maison. Rêve Delphine, de 13 à 14 ans. Je rêve d'un bœuf noir qui me poursuit avec force. Le bœuf est vigoureux, sa tête presque tachetée de blanc. Porte deux longues cornes bien pointues. Ah, quel malheur, me dis-je. Le sentier se rétrécit. Que puis-je faire? Je me penche sur un manguier. Hélas, je suis tombé par les buissons. Alors il s'appuie les cornes contre moi, mon intestin sort et il le mange. Rêve de Radza. Dans son rêve, le sujet entend dire à l'école que les Sénégalais viennent. Je suis sorti de la cour de l'école pour voir. Les Sénégalais viennent, en effet. Ils s'enfuient prendre le chemin de la maison, mais notre maison est aussi dispersée par eux. Rêve de scie, garçon de 14 ans. Je me promenais dans le jardin. Je sentais quelque chose qui forme une ombre derrière moi. Les feuilles choquaient tout autour de moi, en tombant, comme s'il y avait un brigand qui voulait me prendre. Quand je marchais dans toutes les allées, l'ombre me suivait encore. Alors, la peur me prit et je me mettais en fuite. Mais l'ombre faisait de grandes enjambées, qu'il tendait sa grosse main pour me prendre par mes habits. Je sentais ma chemise déchirée et je criais. En entendant ce cri, mon père sursautait du lit et me regardait, mais la grande ombre disparaissait et je ne sentais plus ma grande peur. Il y a de cela une dizaine d'années, nous fûmes étonnés de constater que les Nord-Africains détestaient les hommes de couleur. Il nous était vraiment impossible d'entrer en contact avec les indigènes. Nous avons laissé l'Afrique à destination de la France, sans avoir compris la raison de cette animosité. Cependant, quelques faits nous avaient amenés à réfléchir. Le français n'aime pas le juif, qui n'aime pas l'arabe, qui n'aime pas le nègre. À l'arabe, on dit, si vous êtes pauvre, c'est parce que le juif vous a roulé, vous a tout pris. Au juif, on dit, vous n'êtes pas sur le même pied que les arabes parce qu'en fait, vous êtes blanc et que vous avez Bergson et Einstein. Au nègre, on dit, vous êtes les meilleurs soldats de l'Empire français. Les arabes se croient supérieurs à vous, mais ils se trompent. D'ailleurs, ce n'est pas vrai. On ne dit rien au nègre. On n'a rien à lui dire, le tirailleur sénégalais est un tirailleur, le bon tirailleur a son capitaine, le brave qui ne connaît que la consigne. Toi pas passer, pourquoi? Moi il n'y en a pas savoir, toi pas passer. Le blanc est capable de faire face à toutes les revendications, se décharge des responsabilités. Moi j'appelle ce processus la répartition raciale de la culpabilité. Nous avons dit que quelques faits nous avaient surpris. Chaque fois qu'il y avait un mouvement insurrectionnel, l'autorité militaire ne mettait en ligne que des soldats de couleur. Ce sont des peuples de couleur qui réduisaient à néant les tentatives de libération d'autres peuples de couleur. Preuve qu'il n'y avait pas lieu d'universaliser le processus. Si les Arabes, ces feignants, se mettaient en tête de se révolter, ce n'était pas au nom des principes avouables, mais tout simplement dans le but de défouler leur inconscient de bico. Au point de vue africain, disait un étudiant de couleur au 25e congrès des étudiants catholiques, au cours du débat sur Madagascar, je m'élève contre le renvoi de tirailleurs sénégalais et l'abus qu'on en fait là-bas. Nous savons par ailleurs que l'un des tortionnaires du bureau de police de Tananarive était un Sénégalais. Aussi, sachant tout cela, sachant ce que peut être pour un malgache l'archétype sénégalais, les découvertes de Freud ne nous sont d'aucune utilité. Il s'agit de replacer ce rêve en son temps. En ce temps, c'est la période pendant laquelle 80 000 indigènes ont été tués, c'est-à-dire un habitant sur 50, et dans son lieu, et ce lieu c'est une île de 4 millions d'habitants, au sein de laquelle aucune véritable relation ne peut s'instaurer, où les dissensions éclatent de tous côtés, où le mensonge et la démagogie sont les seuls maîtres. Note, nous relevons ces dépositions faites au procès de Tananarive, audience du 9 août, Rakotovac déclare, « Monsieur Baron me dit, puisque tu n'as pas voulu accepter ce que je viens de dire, je vais te faire passer à la salle des réflexions. » Je passais dans la pièce attenante. La salle des réflexions en question était déjà remplie d'eau, et de plus, il y avait aussi un bidon rempli d'eau sale, pour ne pas dire plus. Monsieur Baron me dit, « Voilà le moyen qui t'apprendra à accepter ce que je viens de te dire, de déclarer. » Un Sénégalais reçut de Monsieur Baron l'ordre de me faire passer comme les autres. Il me fit mettre à genoux, les poignets écartés, puis il prit une tenaille en bois et pressa mes deux mains, puis, à genoux et mes deux mains pressées, il a mis ses pieds sur ma nuque et m'a plongé la tête dans le bidon. Voyant que j'allais m'évanouir, il a relevé son pied pour me laisser reprendre l'air, et ceci s'est répété jusqu'à ce que je sois complètement exténué. Il a alors dit « Emmenez-le et donnez-lui des coups ». Le Sénégalais s'est donc servi du nerf de bœuf, mais M. Baron est entré dans la salle de torture. Il a participé personnellement à la flagellation, cela a duré je crois 15 minutes, au bout desquelles j'ai déclaré que je ne pouvais plus supporter car malgré ma jeunesse c'était insupportable. Alors il a dit « il faut donc admettre ce que je viens de te dire ». Fin de la note. Faut-il le dire, à certains moments, le socius est plus important que l'homme. Je pense à P. Naville, écrivant, parler des rêves de la société comme des rêves de l'individu, des volontés de puissance collective comme de l'instinct sexuel personnel, c'est retourner encore une fois l'ordre naturel des choses, puisque, au contraire, ce sont les conditions économiques et sociales des luttes des classes qui expliquent et déterminent les conditions réelles dans lesquelles s'exprime la sexualité individuelle et que le contenu des rêves d'un être humain dépend aussi, en fin de compte, des conditions générales de la civilisation dans laquelle il vit. Le taureau noir furieux, ce n'est pas le phallus. Les deux hommes noirs, ce ne sont pas les deux pères, l'un représentant le père réel, l'autre l'ancêtre. Voici ce qu'une analyse poussée aurait pu donner sur la base même des conclusions de M. Mannoni. Au paragraphe précédent, le culte des morts et la famille. Le fusil du tireur sénégalais n'est pas un pénis, mais véritablement un fusil, le Bell 1916. Le bœuf noir et le brigand, ce ne sont pas les lolos, âme substantielle, mais véritablement l'irruption, pendant le sommeil, de fantasmes réels. Que représente cette stéréotypie, ce thème central des rêves, sinon une remise dans le droit chemin? Tantôt ce sont des tirailleurs noirs, tantôt ce sont des taureaux noirs tachetés de blanc à la tête, tantôt c'est carrément une blanche fort gentille. Que retrouvons-nous dans tous ces rêves, sinon cette idée centrale, s'écarter de la routine, c'est se promener dans les bois, on y rencontre le taureau qui vous ramène dardard à la maison. Malgache, restez tranquille, demeurez à votre place. Après avoir décrit la psychologie malgache, M. Mannoni se propose d'expliquer la raison d'être du colonialisme. Ce faisant, il ajoute un nouveau complexe à la liste préexistante, le complexe de Prospero, défini comme l'ensemble des dispositions névrotiques inconscientes qui dessinent tout à la fois la figure du paternalisme colonial et le portrait du raciste dont la famille a été l'objet d'une tentative de viol imaginaire de la part d'un être inférieur. Prospero est, comme on le voit, le personnage principal de la pièce de Shakespeare La Tempête. En face se trouvent Miranda, sa fille, et Caliban. Vis-à-vis de Caliban, Prospero adopte une attitude que les Américains du Sud connaissent bien. Ne disent-ils pas que les nègres attendent l'occasion de se jeter sur les femmes blanches? Ce qu'il y a d'intéressant, en tout cas, dans cette partie de l'ouvrage, c'est l'intensité avec laquelle M. Mannoni nous fait saisir les conflits mal liquidés qui semblent être à la base de la vocation coloniale. En effet, nous dit-il, ce qui manque au colonial comme à Prospero, ce dont il est déchu, c'est le monde des autres, où les autres se font respecter. Ce monde, le colonial type l'a quitté, chassé par la difficulté d'admettre les hommes tels qu'ils sont. Cette fuite est liée à un besoin de domination d'origine infantile que l'adaptation au social n'a pas réussi à discipliner. Peu importe que le colonial ait cédé au seul souci de voyager, au désir de fuir, l'horreur de son berceau, ou les anciens parapets, ou qu'il désire plus grossièrement une vie plus large, il s'agit toujours d'un compromis avec la tentation d'un monde sans hommes. Si l'on ajoute que beaucoup d'Européens vont aux colonies parce que là-bas il leur devient possible de s'enrichir en peu de temps, que, sauf de rares exceptions, le colonialiste est un commerçant ou plutôt un trafiquant, on aura saisi la psychologie de l'homme qui provoque chez l'autochtone le sentiment d'infériorité. Quant au complexe de dépendance malgache, du moins sous la seule forme où il nous soit accessible et analysable, il procède, lui aussi, de l'arrivée dans l'île des colonisateurs blancs, de son autre forme, de ce complexe originel à l'état pur, qui aurait caractérisé la mentalité malgache durant toute la période antérieure. M. Mannoni ne nous paraît nullement fondé à tirer la moindre conclusion concernant la situation. Les problèmes ou les possibilités des autochtones dans